Et tout de suite, le voyage radiophonique. Un documentaire sonore, francophone, indépendant.
C'est un peu une sorte de poésie entre le tondeur et la bête. Il y a des mouvements à faire, il y a une technique à appliquer. Il y a un jeu de mouvements entre les jambes, les bras, la tondeuse. Lorsqu'on regarde un champion de France ou on regarde un tondeur qui est en train de monter en niveau, qui monte en vitesse lorsqu'il tond le mouton, ça ressemble à de la poésie. C'est beau à regarder, ça détend le regard, ça détend tout. C'est la recherche, la quête permanente du geste parfait. Arriver à tondre, il y a par exemple, lorsqu'on tond un mouton, la méthode originelle, c'est la méthode Bowen. C'est tondre un mouton en 42 ou 43 mouvements. Et lorsqu'on arrive à le faire en 36, 33, et que tout tombe parfaitement, et que la laine est bien préparée, et que la trieuse peut ramasser la laine et l'étendre, je pense que oui, on est arrivé quand même à un geste parfait. Et ça arrive pas à chaque fois. On peut tondre 200 moutons par jour, et on peut avoir peut-être 20 gestes parfaits. Mais les meilleurs, ils arrivent à faire, sur 200 moutons, ils peuvent faire 150 gestes parfaits, 150 tondes parfaites. Et c'est vrai qu'il y a une beauté, du geste, et il y a l'art du métier qui sort.
Il faut imaginer un plateau de calcaire, nu et vaste. Martel n'est pas un village qui s'étale, mais une ville qui s'est reployée sur elle-même, assise à la lisière du Causse de Gramat, dans le Lot. C'est là qu'en juillet 2025, je suis parti à la rencontre d'une société souterraine et nomade, celle des tondeurs et tondeuses de laine. Ils ne sont qu'environ 200 professionnels à tondre, chaque année, les 7 millions de moutons de France. Un monde de l'ombre, où le geste est précis et la saison courte. De l'adrénaline des concours de Martel aux tournées solitaires, des souvenirs de Nouvelle-Zélande aux Hautes-Alpes, ce documentaire est une immersion dans leur quotidien. À la gloire des tondeurs, c'est un documentaire de Jérôme Massella.
C'est une vocation. Lorsqu'on se dirige dans ce type de profession, il y a quand même une idée de faire face tous les jours à porter plus de 200 brebis ou 300 brebis. Et chaque jour compte, chaque brebis compte, tous les jours compte, parce qu'il faut la faire parfaitement, parce qu'on se prépare chaque année pour les compétitions à venir. Et en France en particulier, c'est très serré, parce que le niveau de qualité est à l'image de la touche française. Elle est fine, elle est classe, elle est délicate. Et c'est ça la poésie française aussi, c'est la qualité de l'attente. Moi, personnellement, je tombe à l'international. Je suis le seul tondeur français à tondre en Australie. Et c'est la première fois que je rentre en Europe après 7 ans d'absence. Et je suis impressionné par la qualité de tonte de mes compatriotes. C'est un corps de métier. Il y a beaucoup de parcours différents derrière. Par exemple, moi, historiquement, j'ai démarré dans la marine nationale. J'étais officier de marine. Après, je suis devenu cow-boy de rodéo au Canada. Et en arrivant en Australie, je suis devenu tondeur de moutons. Moi, c'est Covid qui m'a invité à tondre des moutons. Donc, lorsque j'étais en Australie, il n'y avait que deux corps de métier qui travaillaient. C'était les mineurs et les tondeurs. J'étais dans les chevaux en arrivant en Australie. Et un des fermiers m'a donné refuge chez lui et les tondeurs sont arrivés. Et donc, on m'a demandé si je voulais aider dans les chantiers de tonte à attraper pour les tondeurs, et c'est là que ça a commencé. J'ai attrapé mon premier mouton et j'ai eu des conversations avec les tondeurs et ils m'ont dit oui, c'est possible, mais il faut y aller avec tout son cœur. Lorsque moi j'ai démarré dans le Covid, il y avait une crise de tonte de moutons parce qu'il n'y avait pas assez de tondeurs pour tondre les moutons. Donc moi je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans des situations où on était 4 tondeurs pour tondre 2000 moutons. Donc 2000 moutons, 4 tondeurs, si on fait le calcul, il faut que les personnes tondent à peu près 200 moutons par jour pour arriver à faire ça à peu près en 2 jours et demi. Je pense que les agriculteurs voient le tondeur comme quelqu'un d'assez, euh, exceptionnel au final, puisque un fermier va travailler toute l'année. Le jour de l'année le plus important pour un fermier, c'est lorsque la tonte arrive. Donc c'est un jour où il veut être prêt pour l'arrivée de ces personnes-là qui sont quand même assez pressées, puisque un tondeur passe d'une ferme à une autre. Donc il a aussi un emploi du temps assez établi. Donc s'il a 200 moutons à faire à un endroit et qu'il en a 300 à faire à l'autre, c'est un peu une course contre la montre pour tondre le plus de moutons possible. Mais au final, l'éleveur a préparé son mouton toute l'année pour la tonte. Donc il a pris soin de sa montée en poids, de sa laine. Et le mouton est prêt pour le tondeur pour le fameux jour J. Et c'est là que la magie se passe. Donc le tondeur enlève la laine. C'est le moment où toute l'année de travail va se matérialiser. Pour le fermier, c'est ce qu'il a bien réussi à nourrir ses moutons comme il fallait, que la laine a grossi comme il voulait. Et pour le tondeur, est-ce qu'il est prêt à tondre le plus de moutons possible avec le niveau de qualité qu'il souhaite et qui peut l'aider aussi à gagner des championnats?
Qu'est-ce que t'en penses?
Oui, bah c'est sûr que le jour de tonte, c'est toujours hyper important pour l'éleveur de moutons. C'est un jour où il accueille du monde et le tondeur est souvent vu comme... Oui, comme un mousquetaire, un peu un chevalier qui arrive pour aider l'éleveur, donc pour faire en sorte que les brebis aillent bien. Voilà.
C'est l'arrivée des hommes qui font quelque chose que tout le monde ne peut pas faire. C'est surtout ça, je pense, qu'il faut regarder. Il y a une raison pour laquelle on fait des concours, il y a une raison pour laquelle les gens sont quand même assez fascinés par le spectacle de la tonte, parce que c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut du cœur et il faut aussi de l'esprit lorsqu'on fait cette chose-là. Et c'est une chose qui est quand même ancestrale. Un tondeur de moutons, c'est un mousquetaire, c'est un samouraï, mais c'est une personne avec des qualités et des talents, un talent rare. C'est un métier d'art.
Au stand de 1, moi.
Lui, c'est un compétiteur, mais c'est un juge. Puis ensuite, là, il y a un toboggan et les bêtes, elles repartent derrière la case où les animaux seront jugés après la tonte.
Ah, et là, c'est les ramasseurs.
Ouais. L'espace de tonte soit toujours dégagé et propre.
Sous le déluge, digne de Noé.
Alors, c'est quoi les catégories?
Junior, intermédiaire, senior, open, force et tri de laine. Tri de laine, il n'y a pas aujourd'hui.
Alors vous faites force?
C'est tonte au ciseau.
À l'ancienne?
Ouais.
Et pourquoi vous avez choisi force plutôt que la tonte mécanique électrique?
Je fais les deux, mais la tonte aux forces, ça permet de tondre aussi quand il y a des brebis en plein air et qu'il y a des mauvaises conditions climatiques. Ça va un peu moins vite, mais c'est un peu plus passe-partout, quoi. Quand on tend la machine, on peut pas se permettre de laisser des bêtes fraîchement tendues dehors. Quand il y a des journées comme ça, ou qu'il fait un peu froid, ou qu'il y a...
Mesdames et messieurs, tondeur prêt. Juge prêt. Chrono. 3, 2, 1, top. C'est parti.
Le verse, l'orage grondait. Mais là, dans un magnifique ensemble, pendant le cette dure de Thomas, poste 1, Enzo.
Voilà, super ça.
J'ai l'impression que ouais, les nouveaux ils sont un peu plus axés sur le côté sportif et performance physique. Les anciens c'était vachement plus pour se retrouver, faire la bringue et passer un bon moment. J'ai l'impression que les dernières générations là ils sont un peu plus axés compète, quoi, un peu plus dans la concurrence que, et moins dans la convivialité. Mais ça reste convivial quand même, mais ils sont un peu plus... Ouais, ils se mettent un peu plus la pression qu'avant, j'ai l'impression.
Et il y a une vraie Il y a une vraie mode du mulet, non?
Ouais, on dirait. Hein. C'est une petite recrudescence les derniers temps. Ouais. Ça doit être peut-être l'influence australienne ou...
26. Faut que j'en trouve un, là. Attends. Je sais pas s'il y a lui. Il y a lui,
Bon, là-bas.
Attends, faudrait que j'en trouve un vrai affirmé. Il y avait un peu un rouquin tout à l'heure.
Alice, tu n'es pas une brebis.
Ah, voilà. Salut, je peux te poser une question?
Ouais.
C'est une question capillaire.
Ouais.
Ça revient vachement à la mode, le mulet, chez les tondeurs, non?
Peut-être un petit peu, ouais. Mais,
comment ça se fait?
C'est depuis la Nouvelle-Zélande, je suis parti l'hiver dernier en Nouvelle-Zélande. Et du coup, là-bas, presque tous les Néo-Zélandais ont une coupe mulet et la moustache. Donc j'ai fait ça là-bas et puis je suis revenu avec. Alors je m'appelle Pierre-Alain Demière, j'ai 30 ans à la fin de l'année.
Et t'es d'où ?
Du Maine-et-Loire, à côté d'Angers.
Attention.
Je vais tondre en catégorie Open. Pour arriver en Open, j'ai participé aux autres catégories les années précédentes, les juniors, j'ai gagné en 2017. Et en 2019, j'ai gagné les intermédiaires et en senior en 2023. Donc là, je suis obligé d'être en Open, donc c'est un peu plus compliqué.
C'est quoi ton objectif ?
Ben souvent, je suis tout juste en dessous les demi-finales cette année. Donc j'espère faire la demi-finale aujourd'hui, c'est l'objectif. Donc on verra, tout dépend combien de tondeurs ils prennent. Alors on est jugé sur la vitesse. Et on a un nombre de brebis à tondre le moins de temps possible. Pendant qu'on tond, on a des juges qui nous surveillent sur si on coupe la mèche plusieurs fois. Donc on prend des points de pénalité en haut. Et après, ils rejugent la brebis un coup tondu s'il y a des coupures ou s'il reste de la laine.
C'est-à-dire que l'intérêt, un bon tondeur ne passe qu'une fois, c'est ça?
C'est ça, il passe qu'une fois au ras de la peau.
Gilles Granchet qui termine et attaque maintenant la deuxième épaule. Gilles Granchet qui ne devrait pas être rattrapé pour l'instant. La deuxième place va se jouer entre Loïc, Jérémy et Baptiste. Deuxième épaule terminée maintenant pour Gilles. Gilles qui attaque pour la peinture, dernier gigot pour Gilles Granchet qui va lâcher la brebis en dessous des 7 minutes. On encourage Gilles Granchet. Allez, faites du bruit pour Gilles qui va peut-être pouvoir battre en temps son frère. Est-ce que ça va être la revanche du petit frère sur le grand? Attention, non, Pierre Granchet est en train de revenir. Ça va se jouer une fraction de seconde entre les deux frangins. Gilles est là. En même temps, magnifique retour de Pierre Granchet. Troisième place, Loïc Légoni. À l'instant, quatrième, Baptiste. Ouh là 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 là, magnifique spectacle. On voit les niveaux, ils sont égaux. Ça se joue à quelques fractions de seconde. Alors là, le temps est une chose, mais les pénalités. Vous voyez qu'à chaque fois, le tondeur regarde le chronomètre pour savoir combien de pénalités il a eu. Gilles, alors? Gilles, c'est ton année? Quoi de quoi? T'as fini premier? Est-ce que t'as battu grand frère?
Les quatre premières, c'est des femmes.
Mais là, tout pousse.
On a tout déchiré. Oui.
Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Bonsoir. On vient d'être... on a fait première... On était dans les premières aux éliminatoires intermédiaires, ce qui nous permet de monter en senior, tester, voir si on a le niveau en senior. Et quoi qu'il arrive, nous ferons la demi-finale intermédiaire.
Alors c'est la catégorie intermédiaire, donc il peut y avoir des femmes et des hommes. Voilà. Et on vient de nous dire donc que les quatre premières classifiées sont des femmes.
Et voilà. Sachant que historiquement, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui tondaient, mais il y en a de plus en plus. Et surtout, il y a de plus en plus qui font des beaux scores.
Ouais. Et on est toutes très copines.
Voilà, et du coup, on est très très contentes pour les unes et les autres et pour nous-mêmes.
Ouais. Voilà.
Et comment vous êtes arrivée à la tonte?
Alors moi, c'est une reconversion. Je voulais travailler la laine. Et puis un week-end, on m'a dit, tiens, tu veux tondre aux forces? Ok. Du coup, j'ai commencé à tondre aux forces et après, j'ai commencé à la machine 2 ans après. Les forces, ce sont des ciseaux. Les brebis ont toujours été tondus comme ça. Et la machine, bah, c'est à l'électrique. Voilà, grosso modo.
Et pourquoi vous êtes passé à l'électrique?
Pour pouvoir faire mon métier. Car il n'y a pas beaucoup de troupeaux tondus aux forces en France. Ni même dans le monde, il y en a encore pas mal. Hein, mais pour pouvoir en vivre, je me suis rendu compte qu'il fallait que je passe à la machine. Et étant donné que c'est mon métier maintenant principal et que je fais ça toute l'année... Il fallait que je passe à la machine et ça me plaît.
Et comment c'est d'être une femme dans le monde des tondeurs?
Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes d'être une femme au milieu des hommes. Après, ça dépend des endroits, j'ai envie de dire, géographiquement.
Moi, je tombe dans une zone où il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Et dans la langue aussi, dans la langue basque, on ne différencie pas les hommes et les femmes. Un ami, c'est un ami. Un tondeur, c'est un tondeur. Donc je suis traitée exactement de la même manière que mes compagnons. Moi, je crois profondément que nous, on est plus souple, on est plus flexible. Donc on a peut-être plus de capacité pour prendre mieux les positions. Et eux, ils ont plus de puissance, les hommes. Donc peut-être ils sont plus rapides.
Oui, après,
on sait pas.
Je trouve que physiquement, au niveau des jambes, on est pas mal aidés.
On est plus souple, on est plus flexible. Faudra vérifier si c'est un fait scientifique ou pas, mais moi, je pense que oui.
Et étant donné que la tonte, c'est d'abord de la technique avant la force, en fait, du coup, on n'est pas si désavantagé que ça, quoi. Bon, à un moment donné, ça reste un métier physique, mais si t'as pas la technique, en fait, tu te fais mal et ça va pas. Du coup, en travaillant la technique, d'abord, après la vitesse, elle vient, et voilà.
Et alors, pourquoi vous êtes là ? C'est pour le plaisir ? C'est pour...
Pour les copains.
Oui, pour apprendre des choses sur la tonte, se confronter un petit peu à notre niveau, pouvoir progresser, recevoir des conseils des meilleurs.
Ouais.
Et surtout, une fois que tout ça sera fini, boire des coups avec les copains.
Ouais.
Donc, il n'y a pas du tout de concours homme et de concours femme.
Si.
Alors, il existe encore une catégorie femme au moment des championnats de France qui a été mise en place il y a quelques années un peu pour montrer que les femmes aussi tombent. Enfin, voilà, il y avait un peu ce truc-là. Et puis aussi pour avoir le fun aussi entre elles, entre nous, de concourir. On a gardé ça, on a un peu modifié comment on s'inscrivait. Le week-end dernier, c'était les 6 meilleurs en senior et en open qui participaient à une finale femme. Voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est cool parce que moi, j'adore avoir du fun avec mes copines et monter sur la scène entre copines, c'est sympa pour l'ambiance, mais sur le principe, ça me plaît pas du tout. Qu'une intermédiaire tombe dans la même catégorie qu'une open, bon, c'est un peu... C'est pour le fun, quoi.
D'accord.
C'est pour le spectacle, un peu, je crois.
Tout niveau confondu, donc
c'est pour avoir du fun entre nous.
C'est pour avoir le gros fun, voilà. Mais en vrai, moi je trouve ça chouette que déjà de base, il n'y a aucune question de homme ou femme, c'est mixte de base.
Voilà.
Moi je trouve ça bien de garder ça, quoi. Vraiment, c'est
super,
ça important.
Super.
Bah oui.
Mais c'est pas trop mélanger les capacités qu'il y ait des hommes et des femmes, si les hommes sont plus dans la force et les femmes plus dans la technique, dans la souplesse.
Là, en intermédiaire, la preuve, on est 4 femmes à être dans le haut du classement, alors qu'il y avait des hommes aussi, on était à peu près moitié-moitié, je crois, je n'ai pas trop regardé. Mais en vrai, surtout en concours, où là, c'est vraiment la qualité qui prime aux éliminatoires, puis la vitesse. Après, quand on monte en niveau, il y a de plus en plus de brebis à tondre, ça devient un peu plus physique. Voilà, ça devient un peu plus... Ouais, faut être un peu plus... Avoir de la caisse, quoi.
Ouais.
Mais on monte petit à petit, hein. Clémentine de Mangea, ça fait quoi, 2-3 ans qu'elle tombe, et elle est déjà en senior, elle explose tout le monde. Donc, pas de raison.
Et c'est quoi son avantage à elle ?
La technique et la qualité. Elle a vraiment
un travail.
Et le mental. Franchement, elle a un mental...
Ça veut dire quoi, le mental ?
Eh ben, en concours, on est soumis à la pression. Et donc en fait, il faut savoir la gérer. Et je pense qu'elle a un mental déjà en chantier, et du coup en concours, il faut être focus au moment où on tombe. Et savoir gérer le stress. Parce qu'en fait, si on va trop vite, après on fait de la merde. Donc il faut vraiment être au début calé, concentré, qualité.
Précis.
Et après mettre de la vitesse.
Très précis.
Ouais.
Et c'est pas un peu humiliant pour les garçons de se faire prendre les 4 premières places par défi ?
Non.
Je pense pas, hein. On est plutôt tous hyper contents.
Non, ils vont être contents.
Et surtout, c'est jugé de manière équitable et objective. Donc en fait, il n'y a aucune raison qu'ils soient humiliés, en fait. Ouais. Là, c'est vraiment... C'est tellement un travail physique, dur.
Et se confronter pour savoir à quel niveau on est réellement.
Ouais.
Parce que tu vas ressortir vachement plus fort. C'est très dur parce que tu stresses, tu trembles. Il y a un public, il y a du monde. Moi, à chaque fois, je mets une petite semaine à m'en remettre. Mais si j'arrive à avoir le courage de le faire, au final, j'apprends beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais, donc tu viens aussi pour te former.
Exactement. Pour progresser.
Allez, Clémentine, terminé pour Clémentine dans quelques instants. C'est comme bonheur. Le bonheur, c'est dans 30 secondes. Quand on aura terminé cette brebis, tu pourras aller prendre un peu de repos avant les phases finales cet après-midi. Clémentine de Mangea qui maintenant fait l'accélération. On est tous concentrés sur elle. Les acclamations du public. Faites du bruit pour Clémentine. Allez, ça va être fini. Clémentine, top. Applaudissements, merci beaucoup. À tout à l'heure, 14h, pour la reprise de cette troisième manche du championnat du concours du meilleur tondeur français.
Tendre là.
Les juges, tondeurs et autres.
C'est genre un monde à part complètement, parce qu'il est très peu connu du grand public. Mais finalement, dans la tonte, c'est un petit monde quand même assez... assez complet, je peux dire, et genre où on trouve des gens qui peuvent passer beaucoup de temps à s'entraîner, faire énormément de sport à côté pour être performants pendant leur tonte. Non, c'est très technique, il y a plein de choses à apprendre, quoi. Et du coup, je suis pas du tout dans le monde de la brebis, moi je fais des canards, du foie gras, et du coup, genre, si tu veux, depuis que je suis jeune, j'ai toujours bossé quand même un peu dans le milieu de la tonte. Attraper les brebis et tout ça avec une équipe de tonte locale, une équipe de tondeurs locale, pardon. Et du coup, peu de temps auparavant, je suis parti en Nouvelle-Zélande pour voyager. Et du coup, c'est là-bas que j'ai pu tondre mes premières brebis, entre guillemets. Et du coup, j'ai bien aimé. Revenu ici au mois d'avril, j'ai retondu un petit peu ici. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter le concours de tonte pour rigoler, quoi.
C'est la première fois que tu montes sur scène?
Et ouais, carrément, ouais. C'est assez impressionnant au départ, même si c'est un petit concours à taille humaine. Mais du coup, c'est quand même assez déstabilisant au départ. Puis finalement, tu prends le truc à la cool et les gens sont super sympas. C'est un monde où ça vit, où ça bouge et les gens sont sans prise de tête. Il y en a beaucoup qui viennent ici sans grande prétention, les niveaux médiums. Donc du coup, c'est assez cool, quoi. C'est hyper bienveillant, les gens s'entraident entre eux. On est un petit peu dans le monde où ça voyage, un peu la vie de bohème, et c'est cool, ouais.
Mon copain qui rigole derrière.
Ah ouais ? Ah non, mais viens, il s'appelle comment ?
Damien, il tombe ici.
Damien ? Bonjour. Moi, je voudrais du café. Ah bah, du coup, je vais te poser la question que je voulais lui poser. Ça revient à la mode, la coupe mulet ?
Ah, peut-être, je sais pas, il a fait un stage, on sait pas trop.
Qu'est-ce que c'est laid, cette coupe mulet, c'est trop laid, quoi. Non, mais vraiment, il y en a, ça leur va bien, mais il y en a, c'est un peu juste, quoi.
Ça va,
ça va. Ça va, ça va. Ah. C'est correct.
Je garde la bouteille.
Donc, alors, vous êtes passé ?
Oui.
Et donc, alors, comment ça s'est passé ?
On a tourné ensemble. La même catégorie en junior, donc.
Et donc ?
C'était mieux le week-end dernier.
Mitigé. Parce que Damien, il fait pas mal de concours, lui. Moi j'en fais pas beaucoup de concours, mais Damien il fait pas mal de concours, lui, ouais.
Alors comment vous êtes arrivé à la tonte ?
Ben, parce que les copains tondeurs venaient à la maison de tondre et après du coup de fil en aiguille, quoi. Aller attraper un peu avec eux et puis après tondre et puis voilà.
Donc vous êtes éleveur ?
Oui. Je tondais au départ que mes brebis. Et là je tonde que mes brebis ou de temps en temps un peu comme ça et ça me fait ma sortie de la ferme au final.
Nomade, tu sais pas ce que tu vas gagner dans la journée.
Il y a du travail ?
Ah ben il y a du travail, parce qu'après il y a maintenant ce qui arrive, c'est les tondeuses écologiques.
C'est quoi ?
Eh bien, c'est-à-dire que maintenant, il y a des éco-pâturages dans les communes et tout ça, plutôt que de tondre avec un tracteur mécanique. C'est en pente comme ça, ils préfèrent y mettre des brebis que...
Voilà. Donc maintenant, il y a même du travail en ville.
Oui, disons que c'est pas le travail, c'est les éleveurs qui les amènent en ville. Mais autrement, il y a un tondeur parisien, oui, qui habite en pleine ville à Paris.
Bonjour, ça va ?
Salut Jérôme.
Ouais. Toi, t'habites là ?
Non, j'habite rue de Chartres, mais j'ai mon parking qui est ici.
Ok.
Avant, j'étais à Stalingrad. J'ai grandi en banlieue parisienne. Et je me suis juste échappé un petit peu de la banlieue parisienne et de Paris pendant mes études, où je suis allé faire les Beaux-Arts à Nantes. Pendant mes études aux Beaux-Arts de Nantes, j'ai fait des boulots saisonniers pour payer mes études. Donc j'ai fait des boulots saisonniers dans l'agriculture et notamment j'ai bossé sur le Marais Salant de Guérande J'ai fait des vendanges, j'ai fait des choses comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que ça me plaisait bien de travailler physiquement et de voir d'où vient mon travail et où il va, à quoi ça sert, comment je m'insère dans une chaîne et à quoi elle sert cette chaîne, est-ce qu'elle est vertueuse ou pas. Et du coup, j'ai continué après mes études à faire un peu des petits boulots saisonniers dans l'agriculture. Et notamment, je me suis fait embaucher comme berger dans les Alpes suisses. Et en fait, je cherchais à contacter ce milieu pastoral. Il y avait ces bergers un peu mystérieux qui avaient un lien vraiment intime à leur environnement, un lien intime au paysage, une connaissance de la faune et de la flore autour d'eux. Et j'avais envie d'en apprendre plus. Donc, comme ça que j'ai décidé de me faire embaucher pour garder un troupeau dans les Alpes suisses. Et puis de là, j'ai entendu parler de la tonte de moutons. On m'a dit que c'était ultra fatigant et que c'était très difficile, donc j'avais exactement envie de faire ça. Et donc j'ai fait une formation. Et j'ai fait une formation à Fort-Calquier dans les Alpes d'Haute-Provence, donc vraiment un berceau du pastoralisme justement. Et puis j'ai eu la chance d'avoir la proposition de mon formateur pour bosser avec lui dans le Limousin la saison qui a suivi. Donc du coup j'ai fait ma première saison dans le Limousin juste après, donc en sortant des Beaux-Arts. Et comme je te disais tout à l'heure, c'était mon mentor dans la tonte qui a arrêté l'année dernière à 72 ans passés. Et j'ai eu les meilleurs conseils possibles avec ce gars-là, avec Klaus. Il me disait, je pense que si j'avais pas eu ses conseils, en fait, j'aurais peut-être pas continué, tu vois. Il me disait, tu verras de toute façon, parce qu'il me proposait une saison de un mois et demi. Et donc je me disais, j'en sais rien si je vais tenir le coup un mois et demi. J'ai tondu quelques moutons à ma formation et c'est tout, je sais pas, tu vois. Et puis il m'a dit, non mais t'inquiète pas, tu viens. Et puis au bout de 15 jours, en fait, t'auras tellement mal partout, t'auras envie de pleurer. Si tu continues, c'est que c'est bon. Et du coup, en fait, c'était le meilleur conseil qu'on pouvait me donner parce que ça me faisait un défi, quoi. Au bout de 15 jours, effectivement, j'avais mal partout, j'avais envie de pleurer. Et je me disais, du coup, je vais pas lâcher si c'est ça le cap. Donc du coup, j'ai passé le cap et puis après j'ai continué. Et puis je me suis retrouvé à tondre dans le Limousin, puis dans d'autres régions de France. Et petit à petit, par le bouche à oreille, ça s'est su qu'il y avait un Parisien qui tondait. Donc du coup, il y a des gens en région parisienne qui m'ont appelé en Île-de-France. Et puis petit à petit, j'ai une clientèle qui s'est faite en Île-de-France, quoi.
Mais aujourd'hui, on va pas voir des moutons.
Non, là, je vais tondre des chèvres angora. Donc en fait, tu vois, en France, on est, je sais pas, environ un peu plus de 200 tondeurs professionnels, tondeurs de moutons. Et dans ces 200 tondeurs de moutons, il y en a peut-être une dizaine qui font les chèvres angora. Alors pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que je pense que c'est quand même assez différent, même si la méthode ressemble beaucoup et on utilise les mêmes outils, mais c'est beaucoup plus lent. Je trouvais ça très valorisant de tondre ces chèvres et d'être avec l'éleveur qui récolte la moindre petite mèche parce qu'il va la transformer et que ça correspond à son salaire, quoi. Donc tu dois faire du bon boulot. Et là, on va chez deux éleveuses. Là, on va chez Léa en premier et on va tondre 17 chèvres. Mais tu vois, pour 17 chèvres, je prévois 1h30, 2h, tu vois. Donc, par rapport à 17 moutons que tu fais en une demi-heure, c'est pas pareil, quoi.
Et le rapport à l'animal, t'as un rapport avec le mouton en général, un troupeau, une bête?
Ouais, t'as un rapport avec un troupeau, là. C'est pas avec une bête en particulier, mais clairement, chaque troupeau a son identité. Et cette identité de troupeau, elle est très liée à l'éleveur. Un éleveur calme, il a un troupeau calme. Un éleveur nerveux, il a un troupeau nerveux. Donc tu sens bien si l'ambiance est détendue ou pas. Toi, tu te sens détendu, les animaux sont détendus. Clairement, ouais. Et puis ça se double aussi d'un côté... t'as un peu un côté psychologue aussi quand tu fais tondeur de moutons, parce que t'es celui qui passe. Donc en fait, tu vas chez les gens, mais t'es pas du village. Tu reviens tous les ans, donc en fait, il y a une connivence qui se crée. Mais en même temps, tu vas pas raconter tout ce qu'on te raconte dans le village, puisque t'habites pas là. Donc les gens se confient beaucoup. Et en fait, t'es souvent à l'écoute et c'est... Ça te met dans un rôle effectivement assez noble en fait. Tu te sens un peu honoré quoi de recevoir ces confidences. Au-delà de la partie technique, tu vois, t'as cette partie humaine qui est super chouette.
Au début j'avais décalé, j'ai dit bah non, dans le fond tu seras presque mieux au niveau du vent.
Ça te fait plus loin les amener.
Bon, là, je comptais pas... aller. Bah, tu sais, là je les changerai de place après, mais là c'est pour les vaches donc c'est un peu chiant. Je voulais les sortir par là, virer la palette et les rentrer par là. Comme tu veux.
Ouais, bah je vais me mettre là. Hein. De toute façon, comme tu veux. Vent, le moins
si t'as assez de place, après je peux virer ça.
Ouais. Ouais, je vais me mettre là, comme ça t'as moins de trajet à faire. C'est les mêmes tondeuses ou c'est des tondeuses particulières pour les Andorras ?
C'est la même tondeuse, c'est le même cardan, même moteur. Par contre, le moteur il est en vitesse lente. Et le peigne, c'est pas le même. Il y a plus de dents sur le peigne que sur le peigne à mouton. Et en fait, c'est justement pour ce que je te disais tout à l'heure dans la voiture, comme elles ont la peau hyper fragile, tu as moins d'espace entre deux dents que sur un peigne à mouton, parce qu'elles ont la peau toute fine et ça peut passer entre deux dents. Donc ça sécurise un petit peu quoi, d'avoir. Et c'est vitesse lente le moteur, parce qu'elles ont beaucoup moins de suin dans la laine, donc beaucoup moins de gras dans la laine. Et le métal, du coup, il chauffe un peu plus. Donc c'est pour ça qu'on fait tourner un peu moins vite.
Est-ce que tu avais besoin de mettre des... Allez ! Allez, hop, hop !
C'est con, ils étaient là tout à l'heure.
Ouais, mais quand tu veux qu'ils y aillent, forcément, ils y vont pas. Allez, on y va. Attends, il y a Amour qui s'est pas fait. Amour ! Oh, vous vous êtes pas. Avec la palette, ouais. Octave, allez. Allez. Avancez-vous. Soyez pas derrière.
Ah. Vas-y, je tiens.
C'est bon, t'es derrière. Allez, allez, Loulou. On avance. Elle va pas vous manger, Romane. Hein. Je crois que c'est plus l'inverse. Vous êtes un peu en surnom par rapport à elle. Allez. On va bien virer la palette et... C'est sa première tonte. Oui, après, ils sont habitués, puis ça leur fait pas mal, ils sont bien installés. Mais là, il se demande un peu, il est sans sa maman, il se demande un peu ce qui se passe, et puis voilà, mais c'est pas du tout du gros. Hein. Thank you.
comment elles se sentent, les chèvres, l'après-midi ou le lendemain d'une tonte?
On dirait que les pendules se remettent un peu à zéro. Souvent, ça se castagne un peu, ça remet la hiérarchie en route. Comment ça? Eh ben, les mâles dominants vont... Je sais pas pourquoi ils font ça, mais dès l'instant où ils ont plus de laine, souvent les mâles, on voit ça. Ils sont un peu dominants, bah, ils se retestent un peu, voir si c'est toujours toi le chef sans ta laine sur le dos. Sûrement qu'ils changent de gabarit. Mais sinon, non, ils sont assez même soulagés, en fait, parce que ça leur fait du bien.
La méthode Bowen, c'est une méthode de tonte de mouton qui a été mise au point par Godefroy Bowen, un néo-zélandais, dans les années 50. Et en fait, il a rationalisé les déplacements du tondeur avec le mouton pour faire tourner le mouton au fur et à mesure de la tonte pour accéder aux différentes parties de laine du mouton, de manière à ce qu'à la fin, tu aies une toison en un seul morceau. Donc en fait tu le fais tourner sur lui-même le mouton, et toi tu te déplaces aussi en permanence. Donc tu as des passes qui sont toujours les mêmes, qui commencent à un endroit, qui terminent à un autre, et c'est toujours les mêmes d'un mouton à l'autre. Et l'avantage pour le tondeur, c'est que tu es en déplacement, donc tu restes pas figé dans une position, et c'est plus ergonomique. Et l'avantage pour le mouton, c'est qu'il ne reste pas non plus figé dans une position, donc il a tout le temps l'impression que ça va bientôt être fini, et puis il ne reste pas posé sur un muscle qui va devenir douloureux. Et le dernier avantage, c'est pour cette raison qu'il a créé cette méthode essentiellement, c'est de récupérer une toison en un seul morceau. Parce que du coup, la toison, une fois que le mouton est tondu, elle est récupérée par les trieurs ou les trieuses, et il la lance sur une table de tri. Donc une fois qu'elle est remise à plat, tu retrouves toute la couverture qui était sur le mouton, et donc tu peux retrouver la zone de la nuque, les flancs, les cuisses, etc. Et ça te permet de trier les parties les plus fines, tu peux enlever les parties qui sont abîmées, les parties où il y a de la peinture, etc., pour ne transformer que le meilleur de la laine. Donc c'est un tri qui est très important à faire et qui est facilité par cette méthode. Parce que les méthodes qui étaient utilisées en France avant la méthode néo-zélandaise, il y avait la montmorillonnaise notamment, et souvent la toison en fait n'est pas en un seul morceau. Il y a un moment où le tondeur piétine la toison, et donc ça facilite pas le tri après, en fait. Tu récupères pas en un seul morceau bien qui se tient, quoi.
Et le fait de faire le même protocole 50 fois dans la journée, c'est pas abrutissant?
Non, alors il y a un petit côté, moi je dirais que j'oscille entre des moments où je suis complètement perdu dans mes pensées, je suis complètement ailleurs et je pense plus du tout à ce que je fais, et d'autres moments où je me concentre vraiment en me disant tiens, il faut absolument que je pense à cette troisième position, il faut que je change tel truc ou tel truc, voilà, ça alterne. Et après des moments aussi où tu peux discuter un petit peu avec l'éleveur, en fait, ça varie pas mal, mais le fait d'être toujours sur le travail de cette technique, ça te permet aussi de faire passer la douleur de la fatigue quand tu as les muscles qui tétanisent. En fait, tu te reconcentres sur des aspects de la technique, et ça divertit ton cerveau de la fatigue musculaire, par exemple. Donc ça, c'est plutôt c'est une manière de tromper la douleur, quoi. Et c'est aussi un exercice mental qui peut t'aider dans les moments où tu fatigues, quand tu es en pleine saison. C'est ne surtout pas regarder le compteur, et ne surtout pas regarder l'heure. Et en fait, j'ai un copain tondeur qui m'avait donné un conseil il y a des années, que j'avais trouvé super bien. C'est un conseil qui peut paraître complètement futile. C'était juste: pense à tes pieds. Et en fait, tu vois, c'est un conseil de base, mais le simple fait de tondre et de ne plus penser à la tondeuse, de plus penser au travail de la main gauche pour tendre la peau, de plus penser à ce que fait le mouton, à combien il en reste, etc. Mais juste, quel est mon appui? Est-ce que je suis en appui jambe gauche, en appui jambe droite? Est-ce que j'ai le poids réparti à 50-50 sur les deux pieds? Est-ce que j'ai la pointe du pied posée ou est-ce que j'ai tout le pied à plat? En fait, tous ces trucs-là, c'est super important parce que ça se répercute dans ta contention de l'animal et ça se répercute dans les douleurs que tu vas avoir ou ne pas avoir dans les hanches, dans le bas du dos, etc. Donc c'est un conseil qui paraît complètement anodin, mais qui est très très juste, quoi. Tu dois vraiment penser à ça. Mais clairement, la méthode néo-zélandaise, ça a supplanté très très vite, ça s'est implanté partout dans le monde. Et effectivement, au niveau efficacité, il n'y a pas beaucoup mieux. Le truc le plus marrant, c'est mon copain Denis qui a importé la tonte néo-zélandaise à la machine en Sardaigne il y a 40 ans. Et en fait, donc en Sardaigne, on tondait encore à l'ancienne, au ciseau, donc aux forces, en attachant les pattes et en se rassemblant en très grand nombre. Et donc il est arrivé avec une amie là-bas, avec Manet, et ils ont ramené leur machine électrique et ils ont tondu un troupeau à la machine électrique. Et donc ils ont tondu un troupeau qui normalement prenait toute la matinée à une vingtaine de tondeurs. Là, ils l'ont tondu en 2 heures à deux. Et donc là, c'était comme, enfin là, je le cite lui, hein, c'est lui qui me raconte ça. Moi, j'ai pas vécu ce moment-là, mais c'était un peu comme les dieux sont tombés sur la tête, quoi. Les bergers allaient chercher d'autres bergers pour montrer ce qui était en train de se passer. Le mot est passé tout de suite. Et en fait, ils étaient tellement subjugués qu'ils étaient morts de rire, en fait. Ils disaient rien, juste ils rigolaient tellement ça les subjuguait, quoi.
Tout le monde est à 3. Maintenant, avec Denis, on est à 3 brebis chacun. Allez! Allez, 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 allez! 5 brebis, je vous le rappelle, 5, se tient prêt la série suivante. Julien Sureau, Haute-Vienne, Miguel Echevarria du Pays Basque, Félix Cesbron, Haute-Vienne, Éléonore Resno, de Rome. Julien, Mickaël, Félix, Éléonore, préparez-vous s'il vous plaît. Passe longue pour Pierre-Alain. Pierre-Alain qui a fait son retard, Pierre-Alain qui a repris sur Hugues Lachaume. Pierre-Alain demi-heure en tête, le premier dressé, la brebis attaqué, la deuxième épaule. Deuxième place pour Ardigal Massoubre, troisième Hugues Lachaume, quatrième Denis Chéry. Ça se confirme, Pierre-Alain Denière, quatrième brebis. Deuxième Ardigal, troisième Hugues. Raoul. Quatrième brebis pour Denis. Allez, 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 allez. Est-ce que Pierre à la dernière va confirmer son avance par rapport à Hugues Lachaume et Ardigal Massoubre? On verra ça au moment des passes longues et de l'attaque de la deuxième épaule. Passe longue pour Pierre Alain. Deuxième épaule. Le franco-suisse confirme son avance, même si Hugues Lachaume revient très vite, tout comme Ardigal. Ardigal et Hugues dans le même mouvement. Deuxième épaule pour les deux candidats, lequel des deux va lâcher la brebis, ce sera ça qui déterminera. Petit problème de contention pour l'un ou l'autre pour échanger la donne. Légère avance pour Ardigal. Ardigal qui a terminé maintenant, qui va lâcher la brebis, tout comme Hugues Lachaume au poste numéro 4. Ardigal, Hugues, Ardigal. Hugues, ils sont tous dans le même mouvement. Très légère avance pour Pierre-Alain Demierre qui se fait rattraper par les deux autres concurrents. Attention Pierre-Alain. Et le 5. Denis Chéry passe à la cinquième brebis. Allez, c'est la dernière ligne droite, se tient prêt la série suivante, je vous le rappelle. Julien Sureau, Miguel Exebera, Félix Cézeron et Léonore Resnaud. Est-ce que Pierre-Alain Demierre va conserver son avance? Est-ce que Ardégal et Hugues Lajon vont le reprendre? Ça va se jouer à quelques fractions de seconde entre les concurrents. Passe longue pour Pierre-Alain. Une ou deux passes d'avance sur Ardégal. Ardégal est une petite brebis. Est-ce que ça va l'avantager ou pas? Nous allons voir ça. Ardégal est en deuxième place pour l'instant. Deuxième épaule maintenant attaquée par Pierre-Alain Demierre au poste numéro 3. Ardégal est en train de terminer de ses livres de coups. Deuxième épaule maintenant terminée pour Pierre-Alain Demierre qui attaque maintenant plein peine sur les derniers gigots. Là, nous allons voir Ardégal qui est en train de finir seulement à l'instant. 3-4 passes de retard pour notre ami Ardégal au poste numéro 1. Hugues Lachaume est en troisième place, quatrième Denis Chéry. C'est bien Pierre-Alain Demierre qui va terminer. Pierre-Alain qui va terminer maintenant en top en 7.39, Pierre-Alain Demierre. Deuxième, Ardégal Massoubre en 7.44. Troisième place. Ça va se jouer un peu, hein. Denis Chéry est bien revenu sur Hugues Lachaume. Malgré tout, il ne pourra pas faire son retard. Hugues Lachaume est en train de terminer. Dernier gigot pour Hugues Lachaume au poste numéro 4. La Haute-Vienne en force. La Haute-Vienne termine avec les encouragements de Raoul et de tout le monde. Terminé pour Hugues en 8 minutes. Et les encouragements pour Denis Chéry qui a tenu avec Louis XIV. Top pour Denis en 8-14.
La vie est un jeu et pour moi, le métier de tondeur, on joue tout le temps. Avec la tonte, des fois on a des bonnes brebis, des fois des mauvaises. On a un chantier des clients à respecter, des horaires à respecter. Il y a des gens, on peut se lâcher, exagérer le soir. Quand on dort chez les clients, on exagère un peu. Mais demain, faut être frais et dispo pour attaquer. Quoi.
Une vie de pirate.
Ouais, voilà.
Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être seul, même s'il y a deux mois où je travaille tout seul. Je sais que... Enfin, je connais les tondeurs qui sont le plus proches de ma région. Je sais que je peux leur demander un coup de main. Je sais aussi que je peux les appeler. Si moi j'ai besoin de boulot, c'est un fonctionnement familial assez sain. Alors bien sûr, t'as des animosités comme partout, hein, mais globalement c'est plutôt une famille qui s'entend bien. Quand j'ai commencé, les tondeurs de moutons qu'il y avait autour de moi, ils avaient tous des profils assez variés. Il y en avait qui avaient fait des études d'architecture, qui venaient de complètement autre chose. Et du coup c'est vachement enrichissant en fait d'avoir tous ces profils.
Première série, Tom Grancola, Enzo Malgras, Mélina Blanc, Damien Ziggy. Deuxième série, Floriane Mortarano, Amandine Chessial, Flavien Durouet. Troisième série, Mathéo Boucher, Lauriane Grancher, Noé Allérac.
Moi j'ai perdu mon père à 12 ans, donc voilà, on a galéré un peu, donc c'était au plus fort la guirlande. Et j'ai fait maçonnerie pour manger, mais ça ne me plaisait pas, donc je l'ai fait quand même pendant 30 ans. Et après je suis passé tondeur professionnel. Mais je tondais le soir un peu pour amener un peu de cailloux dans les épinards, parce que nous on est payé à la brebis. Donc on est tâcheron, plus on en fait, plus on est truc, donc il faut se déplacer. Donc on est des nomades de la tonte. On est un peu des mercenaires, comme on dit. Tu sais, le matin, on a un temps à faire et il faut qu'on fasse le temps. Parce que si, comme on est, quand il y a plusieurs tondeurs, c'est mon compteur qui me paye. Donc il y a 400 brebis, à moi d'en faire le plus. Les autres, tant pis. Moi, je ne regarde pas les autres. J'essaye d'en faire le plus. C'est de là que est né les concours.
Et alors vous, pourquoi vous venez au concours? Pourquoi c'est... Enfin, quel est l'intérêt de venir?
Mais c'est histoire de voir d'autres collègues. discuter un peu des prix et de retrouver de la convivialité. Voilà, comme ça, quand on a un coup dur, on peut appeler un copain, viens m'aider, je me suis fait mal, est-ce que tu peux venir me remplacer, comme ça. C'est une date où on se retrouve tout le temps d'heure et voilà, et on parle de nos anecdotes, de clients, voilà. Et après, c'est la fête.
Et vous, par exemple, une année, ces 12 derniers mois, ça a été quoi votre vie ?
Eh bien, pendant les mois d'hiver, je garde des brebis. Voilà, en pâture, dans les vignes, dans le Madiranais, pour faire packager les vignes, sous les vignes, tout ce qui est en bio et non bio, et on passe pour enlever l'herbe de sous les rangs. Et après, arrive le mois de mars où je commence à partir tondre. Voilà. Pour les brebis qui montent en estive dans les Pyrénées, qui sont tondues, les brebis viandes sont tondues avant la montée en estive, et par contre, les brebis laitières sont tondues à la descente, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre.
Ok. Et, voilà. Et comment les choses ont évolué en 20 ans ?
Bien, en 20 ans, les machines ont évolué et tout ça. Parce qu'autrefois, moi, j'étais à la main. On faisait beaucoup à la main.
Il y avait des filles il y a 20 ans ?
Non, pratiquement pas. Quelques-unes, mais c'était vraiment... disons, oui, 20 ans, oui. Quelques-unes, voilà.
Et elles sont bonnes, j'ai vu les intermédiaires, les quatre premières, c'est des filles.
Eh bien oui, mais parce qu'elles sont plus propres que les garçons. Elles sont plus méticuleuses, donc elles ont le souci de la propreté. Donc c'est comme c'est la propreté qui prime, des fois sur la vitesse, il y a la vitesse, mais il y a la propreté. Donc comme elles sont plus strictes que les garçons, du tout, pour moi, il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a pas de souci entre hommes et femmes. Il n'y a pas, moi, elles sont aussi bonnes que les garçons et voire meilleures. Voilà.
À quoi on pense quand on tond et quand on tond de façon dans le temps long ?
Moi, j'ai une ferme et des enfants. Alors quand je tonds, je pense qu'il va falloir aller chercher les enfants à l'école, à quelle heure je vais falloir les emmener demain, et est-ce que les brebis auront assez d'herbe jusqu'au prochain jour où je ne tonderai pas. Plutôt comme ça, oui.
Donc c'est pas un moyen de s'évader
Non. Non. Si je suis pas là, je suis pas là. Donc je tonds mal.
Et depuis quand tu tonds ?
19 ans. Alors moi j'ai un gros avantage, c'est que mes parents tondaient des moutons avant moi. Donc j'ai su très vite comment on faisait, quoi. Et après, je me suis améliorée en entendant de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Je suis allée beaucoup en Nouvelle-Zélande. Ça aide beaucoup. Alors pendant très longtemps, la tonte était une récolte de laine, mais est aussi un acte sanitaire, en fait. Si on tond pas la brebis, elle a des parasites, elle se gratte, elle perd de l'énergie parce que le poids de la laine lui mange de l'énergie. Donc moi qui suis tondeuse de moutons parce que j'aime les brebis profondément, je suis consciente du bienfait que je leur apporte en leur tondant.
Mais la laine, la situation avec la laine, elle a changé aujourd'hui.
Ah ben, la laine, elle vaut plus grand chose aujourd'hui, ouais.
C'est une charge en fait, la tonte de moutons.
Pour l'éleveur ?
Pour l'éleveur, alors qu'avant c'était un revenu aussi.
Ah ouais, mais il se pose pas la question quand c'est le vétérinaire qui vient.
Ouais,
ouais. Sauf qu'on fait un acte sanitaire, donc en fait on est aussi important que le vétérinaire.
Mais donc, il n'y a pas un... Mais est-ce que ça ternit la superbe du métier ?
Non, parce que ça reste un métier très physique et du coup, les gens ont beaucoup d'admiration pour ça. Les tondeurs, en général, les gens nous regardent avec les yeux qui pétillent parce que c'est un truc qui est très, très, très physique.
Et comment... ça se manifeste comment, cette admiration ?
Ah ben alors c'est dur à dire. C'est rare qu'il y ait des éleveurs qui soient pas contents de nous voir arriver, déjà. Que la journée de tonte, alors moi dans le sud-est où il y a une grosse tradition de pastoralisme, la journée de tonte c'est le début de nouvelle saison, ça veut dire que c'est bientôt l'agnelage, donc du coup il y a un côté vachement gai. C'était la fête avant. Il y a quand même toujours ce truc de convivialité où on s'entraide pour venir attraper les moutons. Et donc si, quand nous on arrive, il y a que nous on fait un métier très physique et que du coup on est admiré pour ça. Et que l'acte lui-même de la tonte, il veut dire quelque chose. C'est toujours un grand jour. Alors pour certains, ça peut être un grand jour de stress, mais c'est toujours un grand jour.
C'est particulièrement difficile de se faire une place en tant que femme ?
Plus maintenant. Plus du tout maintenant.
Et au début ?
Au début, oui, on a toujours des réflexions. Alors en tant que femme, on peut aussi prendre des compliments comme des...
les grilles.
Ah, mais vous en sortez super bien pour une femme. Alors que c'est un compliment en vrai. Mais non, j'ai jamais personne qui a refusé que je tonde parce que j'étais une femme. Jamais personne qui. Ah, après, il y a toujours des petites réflexions, mais non, faire sa place, non. Non, non, non.
Comment est-ce que c'est addictif de tondre?
C'est complètement addictif, ouais.
Alors comment c'est... Enfin, pourquoi?
Bah, le dépassement physique, il est addictif. Et cette technique de tonte qui est qu'on a jamais fini d'apprendre et d'améliorer, ça, ce côté-là est très addictif. Ouais.
C'est un peu obsessionnel?
Ah bah oui, oui. Oui, oui, vous pouvez demander à n'importe quel tondeur de moutons là, qui sont là, c'est complètement obsessionnel.
Mais genre, toi, t'en rêves, tu rêves que tu tondes?
Voilà, maintenant, ça fait bientôt 20 ans que je tonds, non, j'en rêve plus. Mais débutante, oui, je regardais la télé en calculant comment je pourrais tondre Claire Chazal. Il y a une obsession de comment est-ce qu'on pose sa poignée, comment est-ce qu'on peut être le plus efficace possible et tout ça. Donc du coup, tu as envie de tout tondre.
Si tu regardes au microscope une fibre de laine, elle a plein d'écailles qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction de l'hygrométrie et de la température. Et donc ce mouvement mécanique naturel, ça fait qu'elle va naturellement évacuer les poussières, les saletés, et elle ne va pas conserver l'humidité. Et les bactéries, pour se développer, elles ont besoin d'humidité. Donc les bactéries ne peuvent pas se développer dans la fibre de laine, et c'est pour ça qu'on dit que la laine est naturellement antibactérienne. Et c'est, donc comme elle est antibactérienne, elle ne sent pas. Et tu peux porter des chaussettes en laine 3 jours de suite dans des bottes, tu vas pas sentir des pieds. Donc c'est un petit côté magique, quoi. Elle est respirante, elle peut absorber 70% de son poids en eau avant d'être humide au toucher. Donc en fait, c'est extrêmement sain comme matériau à porter sur la peau. Et il n'y a vraiment aucune autre fibre qui fait ça. Donc il y a eu cette espèce d'illusion de la fibre synthétique qui a fait qu'on s'est dit, bah, en fait, on va vendre toutes les machines des filatures et puis on va plus s'occuper de transformer cette matière désuète. Et donc on a perdu une bonne partie des savoir-faire, on a perdu les machines. Aujourd'hui, heureusement, il reste quelques personnes qui ont encore les savoir-faire. Et on est en train d'en revenir de cette illusion du synthétique, de la polaire, etc. Et de se dire, ah ben non, en fait, il n'y a rien de mieux comme vêtement technique pour la montagne, par exemple, que du mérinos. Et c'est hyper demandé maintenant. Et donc, moi, je reçois régulièrement des coups de téléphone de gens qui cherchent de la laine à transformer. Les éleveurs en reçoivent aussi. Et en fait, il y a maintenant un réveil, quoi. En fait, on se dit, non, mais finalement, cette matière, il n'y a pas mieux, quoi. Donc, on y revient. Et les quelques micro-filatures qui avaient subsisté, les quelques filatures qui ont réouvert, en fait, elles ont été tout de suite submergées de travail parce que en fait, il y a de la demande sur la laine. Donc, il fallait parfois attendre plus d'un an pour récupérer de la laine lavée, cardée. Et donc, il y a du boulot, en fait. Il y a de la place pour des nouvelles filatures et des nouvelles laveries. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y en a plusieurs qui réouvrent. Il y a une belle dynamique dans le sud de la France. Il y a une belle dynamique en Bretagne. Et c'est chouette parce que ça répond à ce besoin des artisans, des fileuses et des fileurs qui recommencent à transformer.
Merci à Nicolas, Reinhardt, Pierre-Alain, Thomas, Manu, Fredo, Étienne, Marie, Maureen et Éléonore. Merci également à l'Association des tondeurs de moutons, l'ATM. À la gloire des tondeurs, c'est un documentaire de Jérôme Massella.